suis demandé quelle langue est-ce que vous parlez, vous, malgré vous, quand vous êtes en train de travailler, par exemple. Il y a des mots en français ou en anglais, des abréviations, des sigles, des acronymes qui sont infiltrés dans votre vie de tous les jours sans même que vous ne vous en rendiez compte. Je vous pose la question parce que je suis fasciné par tout ce qui s'accélère, par ces phrases, par exemple, qui se réduisent par manque de temps et pour que les choses se fassent plus vite, souvent, sans doute pour plus de rendement. Et ça, c'est le langage courant. L'autre jour, je me suis surpris à écrire ASAP, qui en anglais, as soon as possible, veut dire au plus vite, tellement vite que je l'ai réduit en un sigle, ASAP, et même en un acronyme, ASAP. Et le même jour, j'ai reçu un email avec une phrase très étrange qui commençait par FYI, en anglais, for your information, pour information, pour info. Mais FYI, ça va encore plus vite. Et c'est pas innocent, on l'emploie pour informer une personne de quelque chose sans attendre une réponse ou une action. En gros, on se débarrasse d'une information ASAP, aussi vite que possible. C'est toujours fascinant de voir ce que véhicule le langage malgré nous. En l'occurrence ici, la rapidité, l'efficacité. Hier, j'ai appris que ce sigle IRL que je voyais partout sur Internet, ça voulait dire in real life, dans la vraie vie. En gagnant une syllabe, on gagne du temps. On est sans doute plus performant.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle langue parle mon invité d'aujourd'hui? Il y a 4 ans, il remportait le prix Goncourt pour Leurs enfants après eux, fresque de la France périphérique des années 90, avec Connemara en librairie après-demain. Il continue de saisir le territoire et l'esprit de son temps. Il nous raconte, c'est assez fascinant, les retrouvailles entre deux êtres nés au même endroit mais aux trajectoires opposées et qui, à un peu plus de 40 ans, font le bilan et se demandent à côté de quoi ils sont passés. Bonjour Nicolas Mathieu.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, que je sais que c'est quelque chose qui vous passionne. Quelle langue parle-t-on sans même s'en rendre compte, parfois? Et ça vaut pour tout le monde.
En tout cas, il me semble, et pour, c'est quand même là mon métier finalement de m'intéresser à la langue, une chose qui me semble évidente, c'est qu'elle n'est jamais innocente. Vous savez, il y avait le fameux la leçon inaugurale de Barthes au Collège de France commençait comme ça, la langue n'est ni de droite ni de gauche, elle est fasciste. Et par la langue, il y a des dispositifs de pouvoir, il y a des rapports de force, il y a du politique qui passe à travers des corps. Et la langue managériale, à cet égard, est vraiment intéressante à décortiquer pour le sillon qu'elle creuse, où elle nous fait aller, pour les limites qu'elle pose aussi à notre pensée, pour les horizons qu'elle trace.
Qu'est-ce qu'elle raconte? Quelle vision du monde est-ce qu'elle porte, précisément, cette langue-là?
Alors, déjà, elle porte une vision du monde anglo-saxonne, puisque c'est de là qu'elle vient. Ensuite, je pense qu'elle elle emporte avec elle des valeurs. C'est ça, un pouvoir, c'est toujours promouvoir des valeurs par rapport à d'autres. Alors la valeur cardinale, c'est ce que vous disiez avant, avec ces raccourcis, ces courts-circuits, c'est l'efficacité. Et ça ne va pas de soi, l'efficacité. On pourrait se dire qu'il y a d'autres choses qui importent davantage, même dans une entreprise, même dans une équipe de foot, même dans un pays.
Ce qui est passionnant, c'est que vous la faites exister, cette langue, à travers un de vos personnages dans Connemara. Et je me pose la question dans quelle mesure la littérature permet-elle à la fois de rendre compte de cette langue, mais aussi d'y résister, Nicolas Mathieu.
Ouais, alors ça c'est... On se demande toujours ce que peut la littérature. Et la littérature, elle peut nuire à la bêtise, hein. C'est une de ses grandes missions. Moi, enfin voilà, assez modestement, mais quand même, j'essaye de reprendre cette idée-là, flaubertienne, de nuire à la bêtise. Chez Flaubert, il y a ce personnage de Homais dans Madame Bovary, qui parle la langue des lumières, mais des lumières dévoyées, abêties, en roue libre, qui fonctionnent par automatisme.
Oui.
Et j'essaye de faire le même travail sur d'autres motifs, par exemple la langue managériale.
Sous couvert de vendre de l'efficacité, de la performance, les entreprises de consulting promettent en réalité des économies. Quelles factures au prix fort? Voilà ce que dit Hélène, en substance l'un de vos personnages dans Connemara, numéro 2 d'un grand cabinet de conseil. Au fond, quel est le prix à payer lorsqu'on cherche à tout prix à faire des économies, Nicolas Mathieu?
Alors là, on revient, enfin, de l'actualité toute récente, hein, c'est ce qui s'est passé dans ces fameux EHPAD Orpea, je crois. J'ai pas lu tout ce qui s'est écrit là-dessus, ni le livre.
Le livre Les Fossoyeurs, oui.
Ouais, voilà. Mais on peut imaginer que quelque part dans des bureaux, il y a des gens qui font des tableaux Excel, qui essayent de réduire les coûts, de produire de la valeur, de la plus-value, de voir comment on fait tenir un modèle économique, un business plan. Et comment ça se décline après dans ces lieux, dans ces maisons? Eh bien, au lieu que d'avoir une couche par personne à chaque fois qu'elle a un problème, on va dire 3 couches par jour. Voilà. Ça, c'est une logique du calcul, une logique de tableau Excel qui s'applique dans la vie et qui passe par des corps. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça oui. semble prosaïque, mais c'est comme ça que ça marche.
Oui, ça pose une question passionnante. Quelle préoccupation, quelle priorité est-ce que c'est devenu l'humain aujourd'hui?
Mais justement, ces logiques-là, c'est là où c'est totalement fascinant, c'est qu'elles permettent d'éluder ces questions-là de quelle priorité. Ça fonctionne en roue libre, ça marche comme ça marche. C'est-à-dire, c'est le règne des nombres. L'efficacité, ça va de soi. C'est des logiques aussi qui ne se connaissent plus de dehors. Jusqu'à un certain point, en politique, quand on dit ni de droite ni de gauche, c'est qu'on ne se considère plus avoir d'opposition, qu'on ne considère plus avoir une contradiction possible. C'est des, comment dire, c'est des idéologies oui. qui vont au bout d'elles-mêmes et se considèrent comme allant de soi à tel point qu'elles sont l'état de nature de la pensée.
À ce propos, dans Connemara, vous évoquez la présidentielle de 2017, à quelques semaines du premier tour. Quel regard est-ce que vous portez sur les discours, sur les débats, sur les idées, mais surtout sur la langue qui anime cette nouvelle campagne?
Oh, je sais pas si c'est si différent que ça de la précédente. Et puis, je suis pas dans une posture de dénonciation de la vacuité du langage politique, parce que même si il y a beaucoup de vacuité dans ce langage, de faux semblants, de mots passe-partout, vivre ensemble, enfin tout ce qu'on veut, quoi. C'est aussi un langage qui se confronte à nos susceptibilités et qui est toujours en train de louvoyer, parce qu'il y a des parce que l'électeur est peut-être une créature que les vérités, pour qui les vérités sont intolérables. Donc le langage politique a affaire avec ça aussi, notre incapacité à vouloir regarder le monde.
Qu'est-ce qui vous met en colère, Nicolas Mathieu?
Oh, main de choses.
La colère, c'est le mot par lequel s'ouvre votre roman ouais. Connemara. La colère, quel sentiment est-ce que c'est pour vous?
En tout cas, vous savez, il y a quelques années, après les attentats, il y avait eu ce livre « Vous n'aurez pas ma colère », et puis il y avait eu...
« Vous n'aurez pas ma haine ».
Ma haine, oui. Mais enfin, il y avait ce discours selon lequel, dans une société civilisée, la colère ne devait pas avoir de place.
Certes.
Et ça me semble tout à fait faux. Et il me semble que la colère est un puissant affect à la fois politique et littéraire. Et le livre commence avec la colère d'Hélène, qui est une femme avec qui a en proie aux affres à la fois de son âge et puis des dispositifs de pouvoir sexistes, etc. Qui l'enferme. Et enfin, j'avais été très frappé par un des entretiens de Philippe Ross où il disait que peut-être la littérature occidentale commençait là, avec le mot colère. Oui. Dans l'Iliade, je chante la colère d'Achille. Alors, j'ai voulu ancrer à la fois le livre et Hélène là-dedans, dans cet affect, et me dire que c'était peut-être le carburant qui ferait marcher le plus fort son moteur. Hélène, c'est une force qui va, et elle carbure à ça, à la colère au départ.
Rien ne peut apaiser la colère?
Si, si, sans doute, je suis pas sûr qu'il faille être apaisé, en fait. Je crois pas du tout à cette idéologie de la clairière, moi. C'est-à-dire, il y aurait un parcours à accomplir, et puis un jour, on arriverait dans un endroit où, enfin, on peut s'asseoir, et tout va bien. Ça me parle pas du tout. Je me souviens, il y avait une phrase de Debord qui m'avait beaucoup marqué quand j'avais 20 ans. Pour moi, il n'y aura ni retour, ni réconciliation. La sagesse ne viendra jamais.
Celle qui est très sage dans cette émission, trop, peut-être, Nicolas, vous la connaissez, c'est la culture et son actualité qui n'a jamais fini de geindre. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 31 janvier?
Ici Robert Desnos.
Le 8 mai 1945, au petit jour, crispant dans ses mains une fleur fanée,
mourait Robert Desnos.
Retrouvailles surréalistes, comme le révèlent nos confrères du Figaro, plusieurs dizaines de poèmes inédits du surréaliste et résistant Robert Desnos ont été exhumés par la revue spécialisée L'Étoile de Mer. Retrouvé 75 ans après la disparition de l'auteur, composé dans des petits cahiers entre 1936 et 1937, les textes magnifient avec humour et poésie des gamins parisiens, un animal fantastique, le brouillard d'automne, un pirate énamouré, ou les souvenirs de la Grande Guerre, le tout accompagné de dessins, c'est trop bien.
Bénévolement et de manière volontaire, chaque soir, on le maintient en vie alors qu'on nous a fait croire que ce cinéma était définitivement mort.
Pas question de mettre la clé sous la porte, officiellement fermée en 2018, La Clé. Le dernier cinéma associatif parisien résiste contre vents et marées, en passe d'être racheté par le groupe SOS, proche de La République En Marche. L'établissement, soutenu par des étudiants, des cinéphiles et des artistes, organise depuis près de 2 ans projections, débats, ateliers, animations pour éviter la fermeture définitive. Un avis d'expulsion a été émis pour demain, mardi 1er février, mais il est encore temps de se mobiliser.
Il me semble que la poésie n'est pas une question de forme ajustée, que ce n'est pas un bien-dire étudié. Il me semble que quand on lit de la poésie, on attend autre chose.
Le poète et écrivain Jacques Abeille s'est éteint le 23 janvier dernier, a-t-on appris ce week-end, écrivain de l'imaginaire en temps surréaliste. Il était l'auteur d'une œuvre foisonnante où se déployaient des mondes à la croisée de la science-fiction, de la fable philosophique et de la fiction d'aventure. On lui doit les romans peuplés de poètes et de fous, hantés par la question de l'usurpation, les jardins statuaires, les barbares et de la barbarie. Encore le recueil Les Voyages du Fils, R.I.P.
Can't believe the news today. I can't close my eyes, make it go away.
50 ans après le massacre, le 30 janvier 1972 à Derry, lors de la guerre civile d'Irlande du Nord, U2 a rendu hommage en musique aux 13 pacifistes tués par l'armée. Le groupe a dévoilé hier sur Internet une reprise acoustique inédite de son classique Sunday Bloody Sunday. En compagnie du guitariste The Edge, le chanteur Bono y apparaît en noir et blanc pour livrer une version tout en sobriété et en émotion. On monte le son. Le romancier Nicolas Mathieu, invité de Boomerang ce matin pour Connemara, en librairie mercredi, ce livre placé sous le signe d'une chanson de Michel Sardou. Ce titre ancré dans notre culture populaire, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous?
Ça dit quelque chose, oui, de ce que je cherche à faire un peu dans ce livre et puis dans tous les autres, c'est-à-dire de chercher ce qui nous est commun et ce qui nous sépare, de ce qui est partagé et ce qui nous divise. Et Connemara, c'est bien ça, c'est une chanson qu'on connaît tous, que tout le monde peut fredonner dans ce pays, et en même temps qu'on écoute très différemment selon qu'on l'entende à la fin d'une teuf de HEC ou dans un bal populaire.
Oui.
Et l'histoire entre Hélène et Christophe, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qui est commun à ces deux êtres, et en même temps, qu'est-ce qui passe à travers eux.
À quel souvenir est-ce que vous l'associez, vous, cette chanson, Connemara?
Ah, beaucoup de souvenirs, je pense que le tout premier souvenir, ça doit être... quelque chose d'un peu nébuleux dans une cuisine chez ma nounou peut-être, la valise RTL et puis d'un coup être Connemara qui part, vous savez le petit sifflement de la cocotte minute, les haricots verts, ce genre de choses.
Vous l'aimez cette chanson?
Oui, moi je n'ai pas de mépris, j'ai pas regardé ça.
Alors,
je la cite pas avec sarcasme ni comment dire surplomb.
Parce que c'est ça qui est passionnant, effectivement, c'est que cette chanson, elle fait l'objet d'un certain mépris de la part de ce qu'on pourrait appeler la culture légitime. Ce ricanement, Nicolas Mathieu, qu'est-ce qu'il traduit au fond?
Peut-être qu'il y a déjà effectivement un rapport de pouvoir entre culture légitime et puis culture populaire. Il y a aussi un rapport de la droite et de la gauche, c'est-à-dire que beaucoup de gens estiment que Sardou étant qui il est, cette chanson témoigne de ça. D'un côté, on m'a posé la question, est-ce que vous avez mis ce titre sur votre livre pour parler de la... monter des populismes. J'avoue que c'est une idée qui ne m'était pas venue.
En tout cas, le mépris des classes pavillonnaires et populaires, vous le racontez, vous en racontez l'histoire sous forme d'épopée depuis votre premier roman Aux animaux la guerre.
Et c'est ça peut-être le mot le plus intéressant, épopée. C'est-à-dire qu'il y a dans mes bouquins la tentative de montrer la grandeur qu'il y a dans ces vies qui peut-être semblent n'en avoir aucune. Sardou, à partir des chansons qui vont vraiment cartonner dans sa carrière, on sent ça, une volonté épique, ça pousse très fort. Alors, on peut être agacé, je pense que parmi les auditeurs aujourd'hui, il y en a plein qui détestent ça. Mais n'empêche, quand vous entendez ça dans l'habitacle d'une voiture sur l'autoroute, que vous roulez à 130, ça pousse fort, qu'on le veuille ou non.
Vous savez, quand on l'a reçu dans Boomerang, les auditeurs étaient contents. Hein.
C'est vrai.
Bon, ils ont commencé par gueuler, mais après ils étaient ravis. On les a tous entendus chanter. Vous êtes écrivain, vous êtes prix Goncourt, Nicolas Mathieu, vous êtes publié aujourd'hui dans une grande maison d'édition, vous faites partie de cette culture dite légitime. Et la question du passage d'un milieu à un autre, plus favorisé en l'occurrence, elle est au centre de votre écriture, de votre travail. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être un transfuge de classe, cette expression qu'on entend tout le temps?
Ouais, jusque peut-être à la nausée, peut-être que les gens en ont marre de nous entendre nous rouler dedans et nous plaindre de notre transfert. En tout cas, ce que ça signifie, c'est qu'on est traversé physiquement par des affects contradictoires. Et le bouquin, je pense qu'il... Vous savez, un roman, ça se met à proliférer presque comme une maladie à la croisée de différentes hantises. Et moi, j'avais été très, très, très affecté par l'élection de 2017, où j'étais à la fois heurté beaucoup par les discours qui émanaient du monde d'où je viens, qui étaient d'une brutalité folle et un peu démente, et en même temps par le mépris, le surplomb du monde où je fraye désormais.
Oui, c'est.
Il faut comprendre que ces choses-là, c'est pas des phénomènes intellectuels, c'est des phénomènes... Enfin, on est pris par ça. Cette frontière-là, elle est à vif à l'intérieur. Elle nous traverse.
Y compris quand on est érigé en exemple du bon fonctionnement de la méritocratie républicaine, Nicolas Mathieu. Oui,
ça,
y compris.
Pas ça du tout. Ça, c'est
quand on sert d'alibi au dysfonctionnement d'un système.
Oui, alors ça, le fait que les gens comme moi qui sont passés d'un monde à l'autre puissent servir d'arbre qui cache la forêt, d'alibi à un système qui est si peu méritocratique à la vérité. Enfin, ça, moi, je veux pas du tout participer à ça, quoi. Je suis l'accident qui jamais n'invalidera la règle.
Derrière la trajectoire du transfuge, qui est celle de l'un de vos personnages, hein, d'Anconémara, la question qui se pose, c'est aussi tout simplement celle de la réussite, ouais. Et des critères sur lesquels ça repose. Aujourd'hui, quelle image est-ce qu'on nous renvoie de la réussite?
Mais j'ai fait vraiment longtemps la promotion du livre précédent, Leurs enfants après eux, et beaucoup de lecteurs m'ont envoyé l'idée que mes personnages étaient des ratés, qu'ils n'avaient pas de chance, que c'était des déprimants. Et j'avoue que je tombais un peu des nues, je les avais jamais considérés comme ça. Oui. Le fait qu'ils restent dans cette vallée, qu'ils mènent les mêmes vies que leurs parents, qu'ils ne connaissent pas vraiment de grande mobilité, ni sociale, ni géographique, moi je trouvais pas que ça invalidait la réussite de leur existence.
Qu'est-ce que ça voudrait dire réussir?
Eh bien, en tout cas, Hélène, et peut-être pour beaucoup de gens, elle est comment dire, construite par l'idée d'une réussite qui n'est pas vraiment la sienne. Il y a des cases à cocher, comme on dit.
Oui.
C'est-à-dire réussite scolaire, réussite financière, avoir la bonne maison, avoir la bonne auto, avoir les bonnes valeurs, avoir le bon mari, avoir... Voilà. Et puis, elle réussit tout ça, elle. Elle fait le grand chelem de la réussite telle que la société lui propose.
A-t-elle réussi pour autant?
Et voilà. Et puis un jour, à 40 balais, comme ça arrive souvent à cet âge-là, puisqu'on est au milieu du guet, elle s'arrête un moment, elle respire, elle regarde, et puis elle se dit « Est-ce tout ?» C'est une grande question, c'est une grande vibration de la quarantaine. Est-ce que c'est tout ? Et la grande question politique, existentielle, et sans doute littéraire du bouquin, ce serait ça. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui vaut le coup ?
Et devenir écrivain, Nicolas Mathieu, ça vaut le coup ?
Il y a un coût, ça c'est sûr. Moi maintenant, mais il y a eu un coût très très élevé. Oui, ça vaut le coup, parce que justement toutes ces questions dont je vous parlais, les cicatrices qui me traversent, à la fois politiques, affectives, ces filles qu'on aime vainement, ces humiliations qu'on subit, ce temps qui passe, mon Dieu, ce temps qui passe. Au moins. Dans un livre, on peut empoigner tout ça. C'est une guerre de, c'est un combat de rue, quoi. On empoigne tout ça et puis on essaye de rendre quelques coups.
On va reparler de coups et de temps juste après un titre que vous aimez beaucoup, je crois, et qui vous fait même pleurer. J'ai appris Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, sur l'album Wednesday Morning 3 AM en 1964. Vous êtes sur France Inter avec Nicolas Mathieu. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,
the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
C'est assez intéressant hein, physiquement. Il y a quelque chose de Jamy, hein, dont on n'est pas sorcier, mais aussi du Bachelor. C'est-à-dire qu'il a la lunette savante et séductrice, l'œil qui chauffe, l'œil qui frise, le cheveu qui fume sous sa caboche, qui turbine et tourne à plein régime tout en pull rouille. Ce matin, l'écrivain Nicolas Mathieu, invité de Boomerang pour Connemara, en librairie après-demain, ce livre ancré, comme d'ailleurs aux animaux la guerre et leurs enfants après eux, en Lorraine, là où vous êtes né, où vous avez grandi. Ancré vos livres dans ce territoire, quel sens est-ce que ça a pour vous?
Je pourrais déjà commencer par dire celui que ça n'a pas. C'est-à-dire que c'est pas le chant des provinces, c'est pas une apologie d'un territoire. Moi, vraiment longtemps, j'ai écrit des livres chiants, d'ailleurs qui n'étaient pas publiés. Et le moment où ça a commencé à mieux se passer pour moi, à faire des choses qui intéressaient les gens, c'est quand j'ai, au lieu de d'écrire les romans que j'avais envie de lire peut-être, j'ai écrit ceux dont j'étais capable, c'est-à-dire de parler de ce dont du monde que je connais.
Alors précisément ce territoire de l'Est de la France, qu'est-ce qu'il vous raconte aujourd'hui? Vous qui l'avez vu changer aussi, Nicolas.
Il est porteur d'une histoire, donc c'est cette fameuse histoire de la désindustrialisation, c'est aussi un peu un territoire martyr quand même, où il y a des colères qui s'ébauchent, des rages politiques qui bouillonnent, il y a tout ça, mais c'est aussi, et ça quoi que j'y fasse, le paysage, le climat, les humeurs qui m'ont traversé physiquement et dont je suis, même à mon corps défendant, toujours le porteur. Enfin, leurs enfants, après eux, se terminaient par cette phrase, je me cite, vous m'excuserez, mais comment l'effroyable douceur d'appartenir. Ben voilà, moi, je suis pris entre, dans ce dilemme-là, ce monde que j'ai voulu fuir, l'arrachement à ce territoire. Et puis finalement, c'est là, malgré tout, que je me sens le plus chez moi.
Mine de rien, livre après livre, vous retracez, Nicolas Mathieu, une sorte de généalogie de ceux qui vivent ou qui ont vécu dans ce Grand Est. Le temps, je me suis demandé, qui est central dans votre écriture, qu'est-ce que ça représente pour l'homme et pour l'écrivain que vous êtes?
C'est peut-être la chose par pudeur dont on parle le moins, mais encore que, mais c'est vraiment le seul grand sujet en fait des romans. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment un sentiment constant d'hémorragie, c'est de sable qui coule entre mes doigts quand je vois le vieillissement affecter mes parents, quand je vois mon fils grandir d'heure en heure. Et la seule manière de faire pièce à cet écoulement-là, de fixer un peu de temps, c'est d'écrire, justement.
Si la littérature n'apaise pas, ne soigne pas, est-ce que le temps apaise et soigne?
jusqu'au jour où il tue, oui.
Qu'est-ce qu'il a apaisé chez vous? Au demeurant, vous n'êtes pas mort.
Oui, oui, pas encore. Ah, je pense qu'il y a des... Il y a des... Je ne sais pas s'il a apaisé des choses, mais il y a des... En fait, le temps, il rend caduque des problèmes et des blessures. Je ne suis pas sûr qu'il les guérisse, en fait. Mais un jour, on se réveille, et cette chose-là, cette personne qui nous avait brisé le cœur, ou cette angoisse qui nous tenait éveillés la nuit, n'ont plus lieu d'être. Et il y a comme une tectonique des plaques. En fait, le temps, ça fait circuler le monde sous nos pieds. Un jour, on se réveille, le paysage a complètement changé. Et ce qui nous hantait, ce qui nous travaillait le plus fort, est devenu sans raison.
Qu'est-ce qui nous fait tenir? C'est une question magnifique à laquelle j'ai pensé sans cesse en lisant votre livre Connemara. Et pour répondre à cette question, vous nous avez écrit un texte, Nicolas Mathieu. J'aimerais bien que vous nous le lisiez.
À l'école, j'étais complètement nul en physique-chimie. En éducation physique aussi, mais c'est un autre problème. J'étais nul sans doute parce que je ne m'intéressais pas du tout à ce qui se disait dans ces cours où une prof en blouse blanche prononçait des mots comme solution aqueuse ou molécule. J'ai fait comme ça mon chemin dans la vie, en ignorant à peu près tout des puissances gravitationnelles et des règnes qui ordonnent le cosmos et la matière. Je n'ai rien su de Max Planck ou de Vera Rubin. Mais depuis quelque temps, je me suis surpris à écouter des podcasts scientifiques. Récemment, je suis allé jusqu'à acheter Science et Avenir, presque en douce, avec la même hâte fébrile que l'adolescent qui, jadis, avant l'invention d'Internet, faisait provision de revues exotiques chez le buraliste le plus proche. Sur Insta, je regarde des mômes qui font des expériences, qui consistent en général à plonger des mentos dans une bouteille de coca. Je follow des comptes dédiés aux merveilles de la science. Et naturellement, comme tout le monde, je m'intéresse aux aventures en apesanteur de Thomas Pesquet. Mais ce qui me fascine surtout, ce sont les images satellitaires, les vues de galaxies en collision ou de trous noirs gémeaux. Je me laisse fasciner comme cela par les images de planètes lointaines et les chiffres déments des calculs galactiques. Milliards d'années-lumière, billions d'étoiles, nombre de vertiges qui s'ingénient tous à souligner notre exacte insignifiance. Oui, c'est devenu un genre de vice nouveau pour moi, comme un lâche soulagement. Peut-être éprouvons-nous tous une sorte d'épouvante à mener nos vies quotidiennes. Les tâches sans fin, un chef qui nous empoisonne, un père qui divague de la rue au petit jour, en robe de chambre et sans plus savoir où il est. La longue fatigue de l'âge adulte, l'aquabon qui nous prend parfois dans la salle de bain alors qu'on écoute la matinale à la radio. Et puis cette trouille à la fin, pour nos mômes, nos vieux, nos lendemains. Cette inquiétude qui ne nous quitte pas. Il faut bien l'admettre. Tenir bon n'est pas une mince affaire. Alors de temps en temps, je regarde le visage pâle et grêlé d'Encelade, une des 80 lunes qui orbitent autour de Saturne, à 1,3 milliard de kilomètres de nous. Il y neige depuis près de 100 millions d'années, et sous sa surface se trouve un océan dont nous ne savons rien. Quelque part, Encelade existe, lourde de sa masse irréfutable, obstinée dans sa rotation. J'imagine la matérialité spéciale de ce monde où nous ne sommes pas, sa sourde et placide indifférence. Et curieusement, je me laisse alors gagner par un immense sentiment de tranquillité, et peut-être même de fraternité.
Est-ce que ça veut dire, Nicolas Mathieu, qu'un monde meilleur, ce serait un monde duquel l'être humain serait absent?
Non, c'est pas ça. Ça veut dire que parfois dans le... Dans cette foire d'empoigne qu'est le quotidien, la campagne électorale, l'angoisse sans cesse, le stress de nos vies au boulot et tout ça, considérer que nous faisons partie d'un cadre plus large, ça soulage. Et on peut sentir quand même qu'on participe de quelque chose de plus vaste que nous. Quand je parle de fraternité à la fin, c'est une fraternité qui est de l'ordre de la matière. On fait partie de ce truc-là depuis toujours et pour longtemps encore. Et moi, ça me détend.
Dans quelle mesure la littérature permet-elle d'accéder à cela, justement?
Ah ben justement, elle est peut-être l'une des seules à le pouvoir. Richard Powers a récemment écrit un beau livre là-dessus. C'est-à-dire que, alors que tout conspire à nous faire croire à un éternel présent, à une immédiateté, à une présence au monde qui est toujours le nez dans le guidon ou contre l'écran, etc. La littérature, elle nous autorise à des lenteurs, à des décadrages, à des décalages, à des dézooms qui nous font justement voir les choses autrement, qui sont un peu mélancoliques, mais qui nous font prendre la vraie mesure des choses.
Merci infiniment Nicolas Mathieu d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Connemara, votre troisième roman, est publié chez Actes Sud et il sort mercredi. C'est un très grand livre à mon avis, on n'a presque rien dit, mais on vous a donné, j'espère, l'envie de le découvrir tout de suite. Les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Si tu fais ce voyage vers le sud, où le vent colle sable sur les frontières, parle de moi à celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer. Parle de moi à celle qui vit là, à celle qui a dit on ne la mariera pas. Si tu vas où le soleil est si chaud, que la terre se ride et que craque ta peau, assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte pour amener de l'eau, de lui prêter main forte. Regarde pour moi si ses tresses sont longues, si le long de sa robe elle tombe. Elle faisait pour moi des nattes si belles, c'est ainsi que je me rappelle d'elle. Ooh, je me demande si elle se souvient de moi, de mon visage, je prie souvent pour ça.
Celle qui vit vers le sud, Émilie Loiseau, il est 9h40 sur France Inter, Sonia De Villers, l'Instant M. Bon lundi Sonia.
Merci Augustin et à demain mardi.
À demain.